Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Nous sommes le 5 mars et hier, 780 députés et sénateurs ont voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'était au château de Versailles où le Parlement se réunit en congrès et nous y étions avec Perrine Vasque, Loïc Besson, Anthony Lebeau. Salut à vous trois.
Salut.
Salut Naila.
Ce nouvel épisode du service politique de BFM TV. Je suis donc Naila Latrousse, merci Perrine, tu m'introduis. Et on va vous raconter à quatre les coulisses de ce congrès, ce que vous n'avez pas vu à la télé hier. Salut Perrine.
Bonjour à tous.
Salut Anthony.
Salut Naila, salut à tous.
Salut Loïc.
Salut.
Bon alors comment ça va au lendemain de ce congrès? C'était un peu physique hier Perrine.
Ouais, c'était un peu physique, surtout que c'était la dernière étape. Il y avait eu d'autres étapes avant qui avaient été aussi un peu intenses en termes de travail à faire en amont, c'est-à-dire ce Sénat. Le Sénat, la semaine dernière, où ça a vraiment été le vote le plus accroché, le plus attendu pour savoir si on pouvait se réunir en congrès. Ça a été arraché de haute lutte et le congrès hier, c'était un petit peu l'apothéose. D'ailleurs, on sentait un peu une excitation générale du côté de tous les parlementaires quand on les croisait la semaine dernière. Ils nous disaient « à lundi au congrès ». Ils étaient tous assez contents d'être là, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Le congrès de Versailles, c'est très beau, mais c'est très ancien. C'est pas fait pour tous nous accueillir, nous journalistes, avec nos caméras, etc. Donc c'était assez intense. Et puis les débats aussi ont été assez intenses, avec des moments un peu plus relevés que d'autres. Il ne fallait rien louper, mais je crois que on l'a fait.
Anthony, tu l'as vécu pareil, le côté un peu physique du congrès?
C'était moins physique que le salon de l'agriculture.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'était quand même dense parce que il fallait d'abord pour nous journalistes gérer aussi un nouvel espace de travail. Le congrès c'était tout nouveau pour nous, donc il y avait quand même des allers-retours entre la tribune, les trois étages à descendre, revenir dans une salle qui s'appelle la salle des deux colonnes, gérer l'arrivée, les sorties. Enfin, tout ça était orchestré de manière différente par rapport à ce qu'on peut connaître au Sénat et à l'Assemblée nationale, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'était un moment de télé aussi qu'on a pu faire vivre, je crois, pour les gens qui nous regardent. Donc c'était passionnant à couvrir.
Loïc, toi, tu étais à mes côtés, salle des deux colonnes. Et c'est là, décris-nous un peu comment c'était. C'est là qu'étaient tous les autres confrères, notamment.
Parce que oui, c'était compliqué pour nous parce qu'on avait surtout beaucoup, beaucoup de monde à gérer en même temps. Les députés et les sénateurs, ce qui n'arrivait jamais. Et en plus, les uns étaient aussi importants que les autres à une journée comme hier. Donc, ça faisait beaucoup de monde qui arrivait d'un coup. Il fallait qu'on pioche les bons invités, qu'on les repère déjà dans des mouvements de foule presque, en quelque sorte, lorsqu'ils sortaient en même temps. Donc, c'était ça pour nous, la difficulté à la fois de réussir à gérer tout le monde avant que les uns ou les autres partent, parce qu'on va en parler, mais il y en a aussi pas mal qui sont partis avant même l'annonce des résultats, juste après leur vote. Donc, fallait être sur le qui-vive.
Ouais, on va y arriver. Effectivement, c'était physique aussi. Je l'ai vécu pareil. Perrine, toi, tu étais la première sur les lieux, hier au château de Versailles, en précurseur en quelque sorte, arrivée à la mi-journée. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe à l'arrivée? Est-ce qu'on a accès à tout? Justement, Anthony disait on ne connaît pas les lieux. Ça ressemble à quoi quand on arrive?
Alors déjà, quand on arrive, moi, j'arrive par l'entrée du château de Versailles, puisque je vais au congrès de Versailles, donc j'arrive par l'entrée principale. Et puis on m'explique que non, les journalistes, il faut faire le tour et c'est l'entrée de service au fond à gauche. Voilà, moi je rentrais par la grande entrée des députés qui eux sont arrivés en bus par l'entrée principale et par la cour du château de Versailles. Mais c'est en fait, ce qui était impressionnant quand je suis arrivée assez tôt, c'est de voir que tout le monde était un peu dans la même impréparation que nous, dans le sens où on ne connaissait pas les lieux. Il y avait les services et de l'Assemblée et du Sénat qui étaient ici conjointement, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir d'ailleurs ensemble. Et peu de gens savaient me guider. C'est-à-dire, je leur disais, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Où est-ce que je peux faire mes duplex? Les duplex, c'est quand on fait des directs pour l'antenne. Et en fait, j'avais très peu de renseignements parce que je me rendais compte que les gens ne connaissaient pas forcément plus que nous ce congrès qui, rappelons-le quand même, s'est réuni en très peu de temps. Ça a été voté définitivement mercredi soir et ça a été acté que ce serait dès lundi que le congrès aurait lieu. Donc ça a été assez rapide. Tout le monde n'a pas forcément eu le temps de se préparer. C'est pas tous les quatre matins que le congrès est réuni pour voter. Donc on sentait vraiment les services des deux assemblées assez perdus. D'ailleurs, à un moment, je demande mais où sont les tribunes presse pour monter dans l'hémicycle ? Et on ne savait tout simplement pas me guider. Et ce qui était drôle, par contre, après, c'est qu'on prenait on empruntait exactement le même chemin que les parlementaires. Donc quand je suis descendue, une fois que la séance est suspendue pour que les parlementaires votent pour cette inscription de l'IVG dans la Constitution, eh bien, j'étais au milieu de ces parlementaires qui se rendaient dans les salons pour voter, ce que l'on voit très rarement, et au Sénat et à l'Assemblée, ce qui était assez drôle.
Ce qui n'arrive jamais, en fait, au Parlement. Effectivement, on n'est jamais au milieu des parlementaires. Loïc, tu disais qu'il fallait avoir aussi les yeux partout pour attraper tout le monde. Écart frappant entre la sécurité qu'il pouvait avoir à l'extérieur et l'accès qu'on avait, y compris à des ministres à l'intérieur du château de Versailles.
Oui, il y avait tout le monde qui se mélangeait, et puis beaucoup de monde d'un coup, dans des endroits que les gens... Enfin, en fait, c'est-à-dire que les députés ne connaissaient pas, les ministres ne connaissaient pas, les agents qui sont de l'Assemblée et du Sénat ne connaissaient pas non plus, et donc tout ça créait une sorte de joyeux bazar, où en soi, ça nous facilitait le travail d'accès à tout le monde. C'est vrai qu'on avait tout le monde autour de nous à portée de main, encore fallait-il savoir où on allait exactement, et parfois même des gens qui venaient vers nous parce qu'ils étaient tout simplement perdus.
Oui, encore fallait-il aussi pouvoir les joindre. Moi, non, ce qui m'a marqué, c'est que c'était assez drôle hier d'essayer de pouvoir les uns et les autres s'appeler, puisque tout simplement nos téléphones ne passaient pas.
Il n'y avait pas de réseau.
En fait, on avait quand même le sentiment qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vie et beaucoup de ménage et de dépoussiérage depuis Louis XVI, hein, quand même.
C'est drôle ce que tu dis, Loïc, parce que ça aussi, une députée me l'a dit en me disant « je suis sortie parce que j'avais une allergie ». En fait, il y a beaucoup de poussière à l'intérieur de la salle, manifestement. Et donc, certains sortaient un peu s'aérer pendant ce temps-là, d'où le fait aussi qu'on ait un certain nombre d'accès. Je parlais des ministres. Moi, là aussi, dans les choses qui m'ont frappé, et Loïc, on était à ce moment-là ensemble, et Anthony, je crois que tu n'étais pas loin aussi, c'est quand Catherine Vautrin est venue directement dans la salle des deux colonnes pour réagir. D'habitude, Anthony, c'est nous qui allons chercher les réactions des ministres, c'est pas eux qui viennent vers nous.
Bah, d'habitude, on les voit jamais à l'Assemblée ou très peu au Sénat quand ils passent dans la salle des conférences, qui est cette espèce de grande salle juste avant l'entrée dans l'hémicycle. Mais à l'Assemblée, on voit quasiment jamais les ministres. Et là, c'est comme si on aimantait tous les ministres qui étaient présents. Donc à un moment donné, c'est vrai que dans cette salle des deux colonnes, qui s'appelle deux colonnes parce qu'il y a deux colonnes, comme la salle des quatre colonnes à l'Assemblée où il y a quatre colonnes, il y a Catherine Vautrin qui rentre dans cette salle des deux colonnes et on est tous un peu surpris parce que c'est vrai qu'on voit la ministre de la Santé, qu'on voit quasiment jamais dans ces deux chambres que j'ai citées, et qui va faire une interview, je crois, avec Public Sénat de mémoire.
Ouais.
Et ensuite, on essaye, voilà, on se met en place pour un micro tendu, une sorte de point presse avec d'autres confrères. Finalement, quelqu'un l'attrape par la main pour... Je crois que c'était France Télé aussi qui a fait une interview. C'était assez accessible, en fait. Et d'autres ministres aussi qui passaient devant nous. Devant le cordon qui était réservé à la presse, qui nous cherchait du regard pour répondre à des questions. Enfin, on a pu faire Aurore Berger en interview. Il y avait, je crois, BFM TV et une autre chaîne espagnole qui était là. Et on l'a fait un peu sans qu'il y ait d'autres médias qui étaient au courant, parce qu'il y avait tellement de mouvements, c'est vrai, Loïc le racontait, tellement de mouvements, tellement de personnes dans cette salle des deux colonnes que personne ne voyait qu'on était en train de faire des ministres. Ouais. Et les ministres se croisaient comme on croisait les agents de l'Assemblée, comme on croisait d'autres confrères. Donc c'était un joyeux bazar, comme disait Loïc. Ouais.
Parce que peut-être pour décrire les lieux, en fait, il y a un énorme couloir qui s'appelle la galerie des bustes, donc qui permet et d'avoir accès à la salle où nous étions, nous journalistes, cette fameuse salle des deux colonnes, qui permettait aussi d'avoir accès via notre salle à tout simplement le vestiaire où un certain nombre de parlementaires étaient venus déposer leur manteau. Et puis au bout de cette galerie, sur les images, c'est celle que l'on voit traversée par Yaël Braun-Pivet, celle qu'elle a évoquée aussi dans son discours en disant « quand j'ai traversé la galerie des bustes, il n'y avait que des hommes », etc. Et bien tout au bout, il y avait un petit escalier qui permettait et d'avoir accès à la salle de presse et d'avoir accès aux tribunes pour nous les journalistes et pour les parlementaires aux hémicycles. On évoquait les ministres qui venaient nous parler. Perrine, toi tu évoquais il y a quelques instants le long chemin parlementaire. Clairement les stars hier, c'était pas les ministres, c'était une sénatrice et des députés qui se sont battus pour le texte. C'est elle que tout le monde essayait d'avoir.
Oui c'est ça, après là où effectivement on était tous très collés les uns aux autres, ce qui est assez rare, mais ce qu'il faut quand même aussi noter, c'est que tout le monde avait très envie de parler sur ce sujet globalement qui faisait consensus, globalement positif, et c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement besoin d'aller les chercher, les tirer par par la manche, comme bien souvent c'est notre cas. Là, tout le monde avait plus ou moins envie de parler, et c'est vrai que la sénatrice Mélanie Vogel, notamment, qui elle s'est énormément battue, parce que si ça a été pas forcément un chemin de santé à l'Assemblée, je vous explique pas ce que ça a été au Sénat, avec une majorité de droite, emmenée par Bruno Retailleau et Gérard Larcher, président du Sénat, qui eux sont frontalement opposés à cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc il a quand même vraiment fallu que Mélanie Vogel, députée écologiste, déploie des efforts considérables. D'ailleurs, c'est une proposition de loi qui était passée plusieurs fois au Sénat avant ce vote définitif. Et la particularité du Sénat, d'ailleurs, c'est qu'en fait, les jeux sont faits avant que les débats arrivent à l'Assemblée. On s'étripe dans l'hémicycle et puis on discute après. Au Sénat, on discute en amont et une fois qu'on arrive dans l'hémicycle, chacun sait s'il a perdu ou s'il a gagné. Donc les discussions ont été âpres. Mélanie Vogel a été notamment aidée par les centristes. Mais c'est vrai que Mélanie Vogel, Mathilde Panot pour l'Assemblée nationale, qui avait déposé une proposition de loi déjà en 2022 sur ce sujet, et Aurore Berger aussi, qui a beaucoup porté ce thème, étaient des députés, des sénatrices qui se sont beaucoup données. Alors rapidement, la polémique est montée d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, au moment où il y avait quand même relativement une concorde nationale qui a duré peu de temps, où Jean-Luc Mélenchon dénonce le fait que Gabriel Attal n'ait pas cité ses parlementaires dans son discours d'une trentaine de minutes au Congrès. On peut le regretter ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait aussi Laurence Rossignol, la sénatrice PS qui porte ces sujets des droits des femmes, qui était particulièrement convoitée, qui était très émue et qui, d'ailleurs, à mon sens, a fait le meilleur discours au Congrès hier.
Oui, puisque tu évoques Gabriel Attal, Loïc, toi qui suis particulièrement Matignon et le Premier ministre, il y avait un gros enjeu hier pour lui, Gabriel Attal. Il était stressé. Qu'est-ce que l'entourage du Premier ministre disait sur sa prise de parole, sur un moment historique quand même?
Il n'était pas peu fier de pouvoir être présent justement à ce moment historique. Il se trouve que ça lui tombe sur lui, à peine deux mois qu'il est nommé à Matignon. Mais enfin bon, c'est comme ça, les coïncidences du calendrier. Donc il en a profité, il en a d'autant plus profité qu'Emmanuel Macron n'avait pas le droit d'être là. Donc c'est lui qui a voulu, en tout cas, il a écrit ainsi son discours, incarné ce personnage un peu au-dessus de la mêlée dans un discours rassembleur. Il s'en est pas particulièrement pris au RN ou quoi, dont certains, le matin même, de ses ministres, eh bien estimé que c'était eux la principale menace, justement, contre l'IVG. Un moment de concorde, c'est ça qu'il a voulu faire, en citant, et c'est une réponse aussi à la polémique lancée par les Insoumis, notamment par Jean-Luc Mélenchon, dont on dit à Matignon eh bien, qu'il gâche tout, finalement, il gâche tout c'est ce moment qui est un moment de solennité comme il y en a peu dans la vie politique, alors que Gabriel Attal dit que pour sa défense, il a cité toutes ces figures qui ont permis ce combat. Alors il a fait en sorte de ne citer aucun parlementaire actuel, justement pour pas que rentrer dans la polémique ou pour vraiment que ce discours soit intemporel en quelque sorte. On sort de l'hémicycle de l'Assemblée, des postures qu'on peut connaître. Et en revanche, ce qu'il dit pour sa défense, c'est que dans toutes les personnalités qu'il a citées, que ce soit Martine Aubry, Najat Vallaud-Belkacem, il a cité beaucoup de femmes de gauche qui se sont battues pour les femmes, pour ce combat fait, y compris par les femmes. Donc voilà pour la défense de Gabriel Attal à travers son entourage.
Voilà, on a beaucoup parlé de la gauche, tu as beaucoup parlé du gouvernement, je ne vous parle pas de la droite, et je ne vous interroge pas sur la droite, parce que pour résumer, pour ceux qui nous écoutent, très rapidement, Éric Ciotti est venu nous dire quelques mots après le vote, mais on a vu par exemple un Bruno Retailleau qui était opposé au texte sortir très 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 vite pour ne pas avoir à répondre aux journalistes. Les Républicains étaient globalement plutôt discrets hier. D'ailleurs, question... Qui était dans la salle, Anthony? Je crois toi, tu étais dans la salle pendant la proclamation des résultats. Perrine aussi?
Non, moi j'étais dans la salle des deux colonnes justement pour essayer d'avoir les réactions.
Ouais, moi j'y étais.
Est-ce que tout le monde était là pendant, pendant les résultats?
C'est ça qui était intéressant. C'est qu'en fait, intéressant à observer, c'est que l'hémicycle était plus clairsemé au moment du retour des votes et de la proclamation des résultats, était plus clairsemé que lors de la séance. Et ce que j'ai pu observer, c'est que lorsque la présidente de l'Assemblée nationale annonce le vote, là, tout le monde se lève et c'est unanime et applaudit. Et donc, on remarque que les sièges vides correspondent aux parlementaires qui n'ont pas voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est-à-dire pour s'éviter justement, je pense, des images qui resteront dans l'histoire où ils restent assis sur leur chaise sans applaudir, enfin sur leur banc sans applaudir, ils ont préféré s'éclipser. Alors, il y a des parlementaires du Rassemblement National qui ont voté pour, mais ils sont quand même sortis après le vote. Je ne sais pas si certains sont re-rentrés, mais en tout cas, beaucoup sont sortis après le vote. Et globalement, notamment, j'ai vu le siège d'Hervé Marseille, le sénateur centriste, qui, même s'il a aidé au fait qu'il passe au Sénat, était lui personnellement opposé à cette inscription. Il n'était pas là. Son siège était vide au moment de la proclamation des résultats.
On parlait de ceux qui sont partis très vite. Alors, bien sûr, il y a les Républicains, mais il y a aussi, en effet, le RN, Marine Le Pen elle-même, partie avant même la proclamation des résultats pour elle, parce que ça va dans le sens de dire qu'il faut dédramatiser le moment, que ce vote ne sert à rien. Ça, c'est l'argument du RN, bien qu'elle ait voté pour. Et pour une info coulisse, Marine Le Pen a réuni ses troupes, l'ensemble de son groupe, une demi-heure avant le début de ce congrès, à 15h à Versailles. Il y a des salles allouées aux groupes parlementaires, comme il y en a à l'Assemblée et au Sénat. Et en fait, elle a imploré véritablement une dernière fois tous ses députés de ne pas voter pour. La majorité, bien sûr, voulait voter pour. Et si vraiment vous êtes voté contre, elle leur a dit « Je vous demande soit de vous abstenir, soit d'aller boire un café, entre guillemets, de ne pas prendre part au vote. Mais vous ne votez pas contre. » Elle a même ensuite envoyé des messages personnellement à certains dont elle savait leur position assez dure sur le sujet et qui voulaient voter contre. Force est de constater que malgré ça, que malgré le rappel à l'ordre de leur patronne, eh bien certains, ils sont 10, 11, je crois, de mémoire au RN, ont voté contre malgré tout. Et ça, c'est quand même un désaveu pour Marine Le Pen, qui en a eu conscience et qui est partie avec une grande majorité de son groupe avant même la proclamation des résultats.
Et ça aussi, ça fait partie des choses que l'on n'a pas vues à la télé. Dans les images, on a vu l'émotion de Yael Braun-Pivet, on a vu la ministre Aurore Berger entrer dans la salle avec sa maman, qu'elle tenait par la main. Elle a expliqué que c'est grâce à elle qu'elle s'était engagée, notamment pour l'égalité femmes-hommes. Si vous, il y avait un moment à retenir de ce congrès. Je commence par toi, Anthony, ensuite Perrine, Loïc.
Il y a eu beaucoup de discours, près de 20 discours, je crois, en comptant Yael Braun-Pivet et celui de Gabriel Attal, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce que j'étais en tribune presse à ce moment-là, c'était celui du sénateur Claude Maluret, qui est un ancien médecin, et qui a raconté une histoire assez terrible quand il était médecin âgé de 25 ans dans un pays du Sud, dit-il, où il avait rencontré une femme qui vivait donc dans un pays où l'avortement était interdit, qui ne souhaitait pas être mère et qui, après avoir accouché, a tué son bébé et il a dû affronter cette histoire terrible. Il l'a raconté pendant près de 5 minutes, cette histoire, et c'est un moment qui a figé tout le congrès. Tout le monde s'est arrêté de chuchoter, tout le monde a commencé à regarder la tribune, à regarder et écouter Claude Maluret. C'était un moment assez hors du temps, parce qu'il y avait d'autres discours qui étaient beaucoup plus politiques, beaucoup plus relevés, et qui ont généré des réactions. Et celui-là, tout le monde est resté stoïque, écoutait, mais vraiment de manière très solennelle, ce discours-là. Et c'était assez touchant, parce qu'on voyait les visages, les émotions qui ressortaient du visage des parlementaires. C'est vraiment un discours qui moi, m'a touché, m'a ému aussi. Et je crois aussi à ému les parlementaires qui étaient là. Ouais.
Et t'es encore ému en parlant. Perrine.
Ouais, ouais.
Écoute, moi, ce que je retiendrai peut-être, c'est d'avoir interrogé la présidente de l'Assemblée à l'issue, dans son bureau du Congrès, dans des situations, dans des circonstances un peu... un peu dantesque quand même, après une journée extrêmement chargée. On court dans tout ce palais pour essayer de trouver son bureau. On a très peu de temps pour s'installer. On a les lumières sous le bras avec les techniciens pour faire très vite parce que le temps manque, parce qu'il faut une interview en direct de la présidente de l'Assemblée. Et puis ce questionnement où je me dis, est-ce que je reste sur ce moment de symbiose démocratique, ce qui n'arrive pas très souvent à l'Assemblée nationale. J'en suis la première témoin pour le savoir. Où est-ce que je parle des polémiques? Voilà, c'était des questions qui étaient là très présentes, parce qu'en même temps, je voyais une présidente de l'Assemblée nationale très émue elle-même, qui avait tout à fait conscience du moment historique qu'elle venait de vivre. Et je me dis, est-ce que je la fais descendre de son échelle historique, ou est-ce que j'essaye en tout cas de rester un peu à la hauteur du moment? C'était assez impressionnant, parce que première interview pour moi comme ça, en direct, avec une journée très intense, et et sur quelle touche on la termine, quoi. C'était un peu ça dans ce bureau du Congrès de Versailles, des méandres de couloirs qu'on a dû traverser en courant. Voilà, c'est un souvenir qui me restera beaucoup.
Loïc, ton souvenir du congrès ?
Ça va être rapide, mais moi, je me suis focalisé bien sûr surtout sur le discours de Gabriel Attal, et c'était le tout début, donc c'était le moment où tous les parlementaires étaient bien sûr le plus concentrés au début de ce congrès, et ce sont ces longs applaudissements pour Simone Veil à travers son fils qui était présent en tribune invitée, Jean Veil, qui est arrivé à Versailles avec le Premier ministre. Et évidemment, enfin, tout le monde avait ça en tête, je vous apprends rien, mais évidemment 50 ans après la loi Veil, ça avait forcément un écho particulier, et qui, pour le coup, une figure qui aujourd'hui, comme Simone Veil, que beaucoup ont combattu à l'époque et dont beaucoup de représentants sont aujourd'hui présents dans l'hémicycle, et bien qui fait quand même aujourd'hui, on peut dire, la quasi-unanimité, en tout cas un large consensus autour de Simone Veil, et je trouve que le symbole, le clin d'œil, était assez intéressant. Et ces longs applaudissements qui étaient les premiers de ce long congrès marquaient, en tout cas suscitaient beaucoup d'attention.
Moi, je retiens que j'ai adoré partager ce moment historique, entre autres de tous les beaux souvenirs que vous rappelez. Je
Merci.
Retiens que j'ai adoré partager ce moment avec vous. Merci à vous trois.
Bonne journée,
bonne journée à tous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Politique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note, un commentaire, à nous écrire. Et puis, on se retrouve très vite sur toutes les plateformes d'écoute et évidemment sur bfmtv.com.